Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et avec nous, notre spécialiste de la culture en Europe, Jean-Pierre Foultier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous nous avez raconté ces derniers temps comment le cinéma était né en France à la fin du 19e siècle, comment il s'y était développé face notamment aux géants américains. On va poursuivre cette semaine notre exploration du cinéma européen, mais vous allez nous emmener un peu plus loin que nos terres.
Assez loin dans le temps, puisque nous remonterons jusqu'en 1917, et dans l'espace, bien sûr, puisque nous allons en Russie, aux confins de l'Europe.
Alors, 1917, la Russie, déjà ça nous rappelle un petit quelque chose.
Des souvenirs de cours d'histoire, probablement.
Probablement.
Octobre 1917, c'est bien sûr la date de la révolution bolchévique, qui fera que quelques années plus tard, on ne parlera plus de Russie, mais d'Union soviétique ou du RSS. Alors,
on est toujours quand même dans le cinéma ?
Bien entendu. En parlant de cinéma soviétique, on s'écarte un peu de l'approche habituelle que nous avons du cinéma. Un art culturel, certes, mais aussi un art de divertissement qui nous raconte des histoires cruelles ou drôles, souvent sous l'angle de la fiction, voire de la fantaisie. Dans l'URSS des années 20, le cinéma est un art politique. Et un art politique contrôlé.
Alors, cela dit, je suppose que le cinéma existait en Russie avant 1917 ?
Oui, bien sûr. L'invention des frères Lumière était arrivée en Russie dès la fin du 19e siècle. Et pendant les dernières années du régime tsariste, de nombreuses salles s'étaient ouvertes à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans d'autres villes où l'on pouvait voir des œuvres de réalisateurs russes aussi. Mmh. C'est pourtant la révolution d'octobre qui va, même si l'expression est un peu malvenue, donner ses lettres de noblesse au cinéma désormais soviétique. Lénine lui-même a déclaré en 1922 « Le cinéma est pour nous de tous les arts le plus important ». Et Trotsky rajoute en 1924 « Quand nos hameaux auront des cinémas, nous serons prêts à achever la construction du socialisme ».
Rien que ça.
C'est dire l'importance politique que revêt le cinéma dans l'esprit des nouveaux dirigeants bolcheviques. Il est à la fois un outil d'éducation populaire et une arme de propagande. La première école de cinéma au monde est apparue à Moscou dès 1919. Puisque nous parlons du cinéma comme arme de propagande, il faut dire qu'à la même époque, l'Allemagne hitlérienne n'est pas en reste et que le régime nazi domine et contrôle toute la production. Mais il ne serait toutefois pas juste de dire que le cinéma soviétique se réduit à ce seul aspect. Il a aussi produit des chefs-d'œuvre.
Bon, alors des noms et des œuvres.
Un nom sort du lot. Celui du réalisateur Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein. Mais le titre d'un de ses principaux films sera peut-être plus évocateur, bien que, rappelons-le, nous parlons ici d'un cinéma vieux de près de 100 ans, en noir et blanc, muet, et d'un abord, disons, pas forcément facile. Ce film, c'est « Le cuirassé Potemkin », sorti en 1925, qui exalte la mutinerie des marins de ce cuirassé dans le port d'Odessa en 1905 et met en scène sa répression brutale par les soldats du tsar. Ce film, qualifié tout de même en 1956 par un jury international de « meilleur film de tous les temps », a donné une des scènes mythiques, on dit culte aujourd'hui, du cinéma mondial, la scène dans laquelle on voit un bébé dans son landau dévaler les escaliers monumentaux de la ville d'Odessa pendant la charge de la troupe contre les grévistes. Eisenstein réalisera un autre très grand film historique dans les années 40, Ivan le Terrible, mais il subira lui aussi, cinéaste pourtant reconnu et vénéré, la censure que le régime de Staline fait peser sur la création artistique.
Alors évidemment, on sait que le régime soviétique a disparu à la fin des années 80, du coup, où en est le cinéma russe aujourd'hui ?
La fin de la période stalinienne avait déjà ouvert des brèches avec l'abandon du fameux réalisme socialiste. En 1966, Andrei Rublev, le film très mystique du réalisateur Andrei Tarkovsky, est salué mondialement. Dans les années 90, Les yeux noirs de Nikita Mikhalkov, produit en Italie avec Marcello Mastroianni, renoue avec la tradition romanesque russe. Signalons en passant que les plus grands films à succès sur l'histoire russe ont été réalisés par des Occidentaux. Le Guerre et Paix de King Vidor ou Le Docteur Jivago de David Lean, deux Américains. Depuis quelques années, les cinéastes russes s'intéressent à la société de leur pays. Parmi les productions récentes, un réalisateur, Andrei Zviagintsev, dont j'ai personnellement beaucoup aimé Le Léviathan en 2014, et plus récemment Faute d'amour. On pourrait évoquer le film de Kirill Serebrennikov, Leto, sorti en décembre dernier, qui raconte l'histoire d'un groupe de rock russe dans les années 80 et dont l'auteur est actuellement dans les prisons de M. Boutine. Tous ces films dont je viens de parler ont été présentés dans les récents festivals internationaux et y ont reçu des prix. Et rajoutons tout de même, pour nous rapprocher un peu, qu'un festival du cinéma russe se tient à Limoges tous les deux ans. Le dernier a eu lieu en novembre dernier.
Et on surveille la prochaine édition. Nous, on a rendez-vous la semaine prochaine. Quelle sera notre destination ?
Cinéma italien.
Eh bien, rendez-vous dans une semaine.
À la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.